L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
Et puis l'Europe, c'est aussi l'espoir de progrès.
L'Europe du côté de chez nous.
Une coproduction Radio BLV, Maison de l'Europe, Drôme-Ardèche. L'Europe du côté de chez nous. Une émission qui présente ce que fait l'Europe sur nos territoires, en donnant la parole aux femmes et aux hommes de Drôme et d'Ardèche, engagés sur des projets en lien avec l'Europe.
Cette émission vous est présentée par Ardiana Tosca, enseignante spécialisée sur les questions européennes, et Anna Gasquet, responsable du Centre d'information Europe Direct, Drôme-Ardèche.
Bonjour Anna.
Bonjour Ardiana.
Bonjour aux auditeurs et merci de nous suivre à cette deuxième saison de notre émission L'Europe du côté de chez nous.
Oui, voilà, après donc la pause estivale, nous voilà de retour ce mois de septembre pour une émission intéressante sur les sujets plutôt liés au territoire, à la mobilité et puis également l'actualité bien sûr que nous allons couvrir avec toi Ardiana en fin d'émission.
Tout à fait. Et on va commencer avec quel sujet aujourd'hui, Anna? De quoi est-ce qu'on va parler au début?
Eh bien, aujourd'hui, nous accueillons notre témoin du jour. C'est Morgane Régnier, qui est la directrice de l'agence Dromolib, qui travaille sur la mobilité durable. On va l'écouter.
Nous sommes aujourd'hui avec Morgane Régnier. Bonjour Morgane, qui est responsable de l'association Dromolib, qui est basée à Cré dans la Drôme, et plus précisément dans l'usine vivante, donc dans un lieu tiers qui s'appelle l'usine vivante. Cette association, elle a pour mission de promouvoir et développer l'écomobilité auprès du plus grand nombre d'habitants dans la Drôme rurale.
Oui, en effet, c'est pour répondre aux enjeux des déplacements des personnes que Dromolib accompagne les associations, mais aussi les collectivités, les entreprises, et pour mettre en œuvre des projets avec un objectif d'une mobilité plus économique et aussi plus fluide sur le territoire. Donc Dromolib est une sorte finalement de boîte à outils de l'écomobilité pour tous. Voilà, donc nous allons aujourd'hui nous entretenir, comme tu l'annonçais, Ardiana, avec Morgane Régnier, qui est responsable de l'association Dromolib.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Bonjour, et merci d'être avec nous et nos auditeurs, justement pour expliquer la structure de votre association et le soutien que l'Union européenne vous a apporté dans le développement de votre activité. Avant tout, donc, ce serait bien de commencer par nous présenter un petit peu ce que Dromolib propose, de nous faire une synthèse de votre activité dans l'ensemble.
Très bien. Alors effectivement, vous l'avez tout à fait résumé. Notre cœur de métier, c'est accompagner le changement et les habitudes de déplacement en territoire rural. Notre territoire d'action, c'est celui du département de la Drôme. Et nous sommes 4 salariés à réaliser ces missions réparties entre direction et gestion de la structure, une assistante administrative et on a 2 chargées de mission, l'une qui travaille en relation avec les entreprises et les publics scolaires et l'autre en relation avec le développement de nouveaux services d'écomobilité.
L'écomobilité, en fait, c'est quoi, Morgane ?
Alors, l'écomobilité, effectivement, c'est permettre et donner la possibilité à chacun et la liberté, surtout, c'est un terme auquel je tiens beaucoup, de se déplacer comme il le souhaite, quand il veut, mais en utilisant un moyen de transport qui ne dépend pas de la voiture individuelle. Donc, c'est toutes les solutions, comme se déplacer à pied pour des trajets de moins 1 km, se déplacer à vélo pour les trajets de moins de 3 km, et partager sa voiture au plus sur les trajets les plus longs et utiliser les transports en commun. Sachant que le déplacement le moins émetteur de gaz à effet de serre, c'est celui qu'on ne fait pas. Donc travailler dans un tiers-lieu ou éviter de se déplacer, ou qu'on fait à pied exactement. C'est celui effectivement qu'on n'a pas besoin de faire.
D'accord. Et aujourd'hui, justement, nous sommes venus t'interviewer parce que votre association Dromolib a reçu une aide de l'Union européenne. Et donc, ça nous tenait à cœur de montrer de quelle manière l'Union européenne peut agir sur les territoires pour soutenir des projets. Est-ce que, alors, tu peux nous expliquer justement cette aide européenne, comment c'est arrivé dans la vie de cette association ?
Le soutien européen est précieux pour notre structure. Sans lui, nous n'existerions pas aujourd'hui. Donc c'est important de le souligner. Au tout début, la structure s'est développée, a été pensée pour répondre à un besoin sur le territoire. Il manquait des offres en fait, de déplacement. Donc c'était l'idée d'apporter une solution vélo. Or, ça n'a pas fonctionné. Les habitants n'étaient pas prêts. Les entreprises non plus allaient dans cette direction. Donc on a dû changer, faire évoluer finalement l'objet de la structure pour être dans l'accompagnement au changement, comme on le précisait au début de cette émission. Et c'est à cet endroit-là que l'Europe a pu nous soutenir via un fonds qu'on appelle le fonds FEDER, qui est géré par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, depuis 5 ans maintenant, le fonds FEDER nous soutient à hauteur de 60% de notre activité. Donc, c'est précieux. Concrètement, les deux premières années, c'était sur le déploiement d'une agence de mobilité, comment la structurer, comment trouver son modèle économique. Et aujourd'hui, on est vraiment sur l'activité, comment on déploie la filière de l'écomobilité. Donc, nos principales missions sont la sensibilisation, la promotion, informer les collectivités, les habitants, les salariés sur les solutions qui existent et puis les accompagner dans la mise en place de solutions.
Donc cet accompagnement que vous proposez, il est entièrement financé par l'Europe ou est-ce que vous demandez un financement aux collectivités, aux entreprises aussi ?
Alors il est effectivement, il y a un cofinancement. Donc des collectivités viennent compléter ce programme-là. Donc on travaille avec la communauté de communes du Royan-Vercors. On travaille avec la communauté de communes du Diois, avec celle du Crétois Pays de Saillant, de la vallée de la Drôme. Et après, on a des actions sur d'autres territoires qui ne sont pas encore cofinanceurs, mais c'est un préalable pour pouvoir aller plus loin. Il faut savoir, une des difficultés, c'est que la mobilité n'est pas une compétence des intercommunalités. Donc quand elles viennent cofinancer, finalement, elles le font sur d'autres compétences, comme celle de l'énergie, le cadre de vie, ou l'urbanisme, mais pas les transports ou la mobilité.
Par contre, en effet, c'est un point, disons, très central de la politique européenne. Tout ce qui est réduction des émissions de gaz à effet de serre, tout ce qui est moyen de locomotion, de transport moindre émission. On l'a vu notamment récemment aussi dans nos émissions passées sur le pacte vert, tout nouveau paquet de mesures qu'a proposé la Commission européenne pour réduire l'émission en fait, de tout le continent européen. Europe et en faire même, ça c'est l'objectif, un continent climatiquement neutre. Donc vous sentez, disons, dans cette ligne de logique ?
C'est tout à fait dans celle-ci. Hein. Donc il y a 4 axes effectivement dans le programme. Nous sommes dans l'axe 2 sur la transition énergétique, les transports et l'environnement comme levier du développement durable. Et ensuite, effectivement, il y a une orientation stratégique. La nôtre, c'est la numéro 13, dans laquelle nous nous plaçons pour favoriser le report modal. C'est comment je me déplace autrement qu'en voiture. Donc, on a vraiment tout à fait notre place dans ce programme. Et on a été très contents de pouvoir, en effet, trouver des bons interlocuteurs à la région pour avancer et proposer des actions.
Comment ça s'est passé, en fait, concrètement ? Comment ça se passe, le parcours d'un porteur de projet qui veut demander un financement ? Vous vous adressez à qui ? Comment ?
Effectivement, au secrétariat à la région qui est prêt effectivement renvoie. Nous, on travaille directement avec le service des mobilités. Donc, on a un interlocuteur et il se trouve que la région a organisé et fédéré un réseau qui s'appelle le réseau Terre, TE2R, qui réunit tous les acteurs de l'écomobilité. Très facilement, on a pu se mettre en lien les uns avec les autres et partager l'information. Et ensuite, donc ça, c'est sur la partie technique. Et après, sur la partie financière, on est en lien avec un instructeur fédéré qui nous accompagne et nous aide aussi dans les démarches administratives et financières pour le dépôt du dossier.
On entend beaucoup de choses sur la complexité des dossiers, de tout ce qui est rapporter les activités, tenir une comptabilité. Est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue là-dessus ? Comment a été votre expérience ? Comment ça se passe pour vous en fait ?
Alors c'est effectivement très complexe, mais c'est très 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 structurant. En fait, on s'aperçoit que par rapport à d'autres associations, l'Europe nous a permis d'avoir les bons outils, de mettre en œuvre les bons réflexes. Donc c'est très dérangeant et ça demande effectivement beaucoup d'énergie de bien mettre en place les bons outils. Mais une fois qu'on les a mis en place, ça fait gagner un temps énorme. D'ailleurs, j'ai ma petite feuille d'émargement qu'on pourra signer pour justifier le temps qu'on passe ensemble. Et puis, on prend le réflexe vraiment de tracer, de garder en mémoire et de capitaliser. Donc, on a des outils structurants et c'est vraiment un point important.
Et quels sont, qu'est-ce que vous avez réalisé justement grâce à cette aide? Quelle a été sa valeur ajoutée?
Donc effectivement, le cœur de notre projet, comme je disais, c'est de déployer la filière de l'écomobilité. Du coup, on a organisé ce programme-là autour de nos publics. Donc on a des axes en direction du public scolaire, des axes en direction des entreprises et d'autres... Donc pour les deux premières cibles, on met en place des plans de mobilité. Donc l'Europe vient aider en fait ces structures à financer un diagnostic déplacement. Comment je me déplace, enfin comment le salarié se déplace sur son trajet domicile-travail et comment du coup après on met en place un plan d'action pour trouver la solution la plus adaptée pour réduire la dépendance à la voiture. On aide aussi à la mise en place de pédibus pour aider les parents à s'organiser pour réduire. En fait, il y a un trajet sur deux qui fait moins de 5 km, donc comment, ou moins de 3 km, et comment je me déplace à pied. Et puis, il y a un autre point très, très important sur lequel on est attendu, c'est qu'on a vraiment réussi à fédérer la filière de l'écomobilité. En 4 ans, on a plus de 200 acteurs, enfin identifié plus de 200 acteurs sur le territoire de la Drôme qui travaillent déjà sur cette thématique-là, qui sont des experts pour la plupart ou non. Hein. On travaille aussi avec des centres sociaux, avec des secrétariats d'entreprise qui sont en demande pour avoir plus d'outils. Et donc, on organise des rencontres tous les ans qui sont finalement un temps fort pour favoriser les retours d'expérience. Et les acteurs sont très en attente de cela pour faire réseau et leur permettre de pouvoir déployer leurs actions.
Justement, est-ce que vous avez rencontré des difficultés par rapport au projet et sur quel plan ces différentes difficultés?
Alors, effectivement, je disais juste avant tout l'avantage qu'on a eu grâce à ce financement de pouvoir bien nous structurer, bien nous organiser. L'inconvénient se situe au niveau des versements des subventions. Il y a un grand décalage entre le moment où on réalise l'action et le moment où le versement arrive. Et donc effectivement, sur notre activité 2018, on a été versé en novembre 2019. Donc ça veut dire que concrètement, il faut avoir plus d'une année, un an et demi de trésorerie d'avance.
Déjà, ouais. En place, ouais.
Donc des jeunes structures comme la nôtre ne peuvent pas absorber cette difficulté. Donc il faut mettre en place des solutions et puis surtout bien travailler la confiance de nos relations avec les collectivités, avec nos partenaires, pour leur faire comprendre qu'on est bien financé, mais que parfois il y a des décalages de versement. Et par ailleurs, on a effectivement travaillé à réduire notre dépendance aux fonds européens pour cette raison, ne pas être dépendant des versements, des subventions. Donc comment on diversifie nos activités? Sur l'écomobilité, c'est pas simple parce qu'il n'y a pas de consentement à payer. Hein. Les gens trouvent que ça va bien, hein. Ils ne voient pas de problème à leur mode de déplacement. Ils ont intégré la dépense que c'est d'utiliser la voiture, etc. Pour eux, c'est normal. Surtout en territoire rural où la voiture est venue déplaver les territoires.
Oui.
Elle est venue sauver en fait nos territoires et permettre des liens sociaux qui se perdaient, etc. Donc comment on garde le lien mais on supprime la voiture? Donc,
il y a un travail de prise de conscience et de sensibilisation qui mérite d'être mené constamment.
C'est ça.
Très bien.
Mais merci beaucoup, Morgane.
Oui, non, en fait, désolée,
je
me suis perdue dans mon idée. C'est comment on diversifie nos activités pour justement réduire notre dépendance à la voiture. Et aujourd'hui, donc, on s'oriente vers deux pistes. C'est donc on est organisme de formation. Donc à ce titre-là, on peut proposer des formations à l'éco-conduite, à la remise en selle, mais aussi référent mobilité, c'est-à-dire pouvoir outiller en fait les acteurs pour les aider à... Concrètement, comment inciter les gens à covoiturer, comment leur montrer que mettre en place un forfait mobilité pour les employeurs, ça va leur donner des avantages, et, réduire le stress, améliorer le bien-être, à favoriser la ponctualité. Et enfin, on s'oriente vers le développement de nouveaux services comme l'autopartage. Nos voitures restent à l'arrêt 95% du temps. Elles nous attendent sur les parkings, à la maison. Comment on partage en fait cette flotte de voitures? Donc l'autopartage, c'est une solution sur laquelle il est difficile d'aller en territoire rural. Le modèle économique est fragile. Donc là aussi, l'Europe, sur le prochain programme 2021-2028, viendra probablement nous soutenir. On y travaille avec la région.
Écoute, merci beaucoup Morgane pour de Dromolib, pour toutes ces informations. Ça donne envie de travailler avec vous pour faire qu'on utilise moins les voitures, on utilise plus des manières différentes de transport, des manières mutualisées, tout en faisant vivre nos territoires ruraux. S'il y a d'autres auditeurs qui ont collectivités, entreprises, qui nous ont écoutés aujourd'hui et qui sont intéressés, on les renvoie vers votre site web.
Tout à fait, donc dromolib.fr. dromolib.fr. Effectivement, on a un centre de ressources et puis on est disponible pour toutes les personnes qui auraient besoin d'avoir des retours d'expérience, savoir comment...
Également pour partager vos bonnes pratiques. Merci beaucoup, c'est très gentil.
Merci pour votre accueil.
Au revoir. Voilà, donc maintenant, place à une petite pause musicale et aux couleurs de l'Italie. On va écouter Mischietta et son Xananas.
Xananas, vieni a rilassarti gioia. Xananas, mi prendo un po' anche da sola. Xananas, beccati di gola. Xananas, è sempre l'ora per un po' di... Ascolta, ti metto un cc, che fra poco ti mando il mio brief, il mio concert è GHB, sedativi in full HD, lunedì fino a venerdì, e l'Exotan è il downer più chic, c'è Franchino nel mio TBT, zio Insta è più il TNT. Xananas, vieni a rilassarti gioia. Xananas, ne prendo un po' anche da sola. Xananas, Xananas.
Et bien maintenant, la Minute Expert, nous avons avec nous Chloé, qui est une stagiaire au Centre Europe Direct. Elle vient de commencer son stage. Et justement, elle va nous parler un petit peu de ces aides européennes qu'on appelle FEDER.
Oui, bonjour Chloé. On a entendu à l'instant Morgane qui nous a parlé d'un projet qui était financé par le FEDER. Alors voilà, ça c'est des acronymes, mais qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que c'est le FEDER?
Alors le FEDER, c'est un fonds européen de développement régional qui finance essentiellement les projets en faveur de la recherche, du numérique, des petites et moyennes entreprises ou encore de l'environnement.
D'accord, donc le FEDER, c'est un des fonds de l'Union européenne qui fait partie de ce qu'on appelle la politique européenne régionale, c'est cela, également appelé la politique de cohésion.
Tout à fait. Et donc l'Union européenne, effectivement, a voulu mettre en place cette politique de cohésion entre les États membres, initialement pour réduire les inégalités entre les pays et permettre aux structures, comme aux particuliers, de réaliser leurs projets à travers une aide financière.
D'accord. Donc, qui peut bénéficier en fait de ce fonds-là de développement régional?
Alors, c'est assez large. C'est vraiment ouvert à tout type d'acteurs, que ce soit les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, les organismes publics ou encore des associations ou même des particuliers.
D'accord. Donc, c'est finalement presque ouvert à tout le monde.
C'est très, très large, effectivement.
Et qu'est-ce qu'on peut financer? Quel type de projet? Dans quel domaine? Alors, il y a, je crois, on l'a mentionné, donc il y a le projet que nous a présenté Morgane, c'est-à-dire autour de la mobilité. Mais quels sont aussi les autres domaines qui sont concernés par ce fonds-là?
Donc, comme je disais tout à l'heure, on a plusieurs types de fonds qui vont être accordés en fonction de la pertinence du projet et des priorités du territoire. Donc, par exemple, le FEDER qui finance les projets sur la recherche, le numérique et les PME ou encore l'environnement. On a aussi le Fonds social européen qui soutient les projets liés à l'emploi, à la formation tout au long de la vie et aussi à l'inclusion sociale.
D'accord. Et donc, FEDER et FSE, c'est des financements qui sont gérés par qui? C'est directement géré au niveau de Bruxelles, de l'État? C'est comment?
Alors,
à qui il faut s'adresser?
C'est des financements qui sont directement gérés par la région. Donc, il faut s'adresser à la région via le site internet Europe en Auvergne-Rhône-Alpes, exactement. Aller dans la rubrique « J'ai un projet ». Ensuite, à partir de là, on trouve une fiche contact, un formulaire à remplir. Et c'est là qu'il faut expliquer son projet et l'envoyer sur le site internet.
D'accord. Donc du coup, bon, ce qu'on peut dire déjà, ça c'était une primo-information, mais ce qu'on peut dire à nos auditeurs, c'est que si vous avez des projets dans le domaine qu'on a cité, numérique, formation, emploi, transport, mobilité, durabilité, eh ben, qu'ils n'hésitent pas déjà à nous contacter au Centre Europe Direct Romardèche, qu'on les aide un petit peu à les orienter et en sachant que très probablement, il y aura des possibilités de trouver des aides pour leurs projets. Merci beaucoup Chloé.
Je t'en prie.
À présent, l'agenda du Centre Europe Direct pour le second semestre 2020.
Oui, tout à fait. Donc, on a une rentrée busy, comme on dit en anglais, chargée. Et ce qui va venir en premier, ce sera un rendez-vous autour des langues. Il y a la Journée européenne des langues qu'on célèbre le 26 septembre de partout en Europe. Et on va organiser avec l'association Felicitalia, donc qui est sur l'Italie, le Centre culturel hispanique, le jumelage de Valence. On va organiser un petit déjeuner apéritif le samedi matin, le 26 septembre à Valence, pour un petit peu voilà, se réunir, parler des langues européennes. Donc ça va être notre premier rendez-vous. Ensuite, ce sera en octobre, on aura le 15 octobre deux rendez-vous ce jour-là. D'une part, on célèbre les Erasmus Days. Donc ça, c'est de partout en Europe. Chaque année, Erasmus et la mobilité des jeunes est célébrée. Et nous, on prépare tout un événement avec des partenaires sur le campus étudiant à Briffaut, à Valence. Donc là, voilà, on vous donnera plus d'informations à ce sujet bientôt. Il y aura également le même jour l'AG de la Maison de l'Europe. Donc là, ce sera un rendez-vous incontournable pour connaître notre association si vous ne la connaissez pas, mais aussi pour adhérer, pour venir voir ce qu'on a fait pendant l'année précédente. Enfin, en novembre, le gros rendez-vous, ce sera autour des Balkans. Peut-être que tu peux nous en dire un petit mot, Ardiana ?
Justement, ce sera dans le cadre du débat européen qui va être mis en place pour l'avenir de l'Union européenne, les grandes orientations de l'avenir de l'Union européenne. Le Centre Europe Direct, nous proposons justement un débat concernant l'élargissement de l'Union européenne. Et cet élargissement concerne la région des Balkans.
Justement, il y a une partie de ces, des pays des Balkans qui sont candidats à l'Union européenne. Et on va voir quelle perspective va être donnée à ces pays des Balkans. Comment le processus va-t-il évoluer?
D'accord.
Et pour ça, Anna, on a nos invités. On a eu un panel d'invités qui sont spécialistes des Balkans et c'est un événement qui normalement va se tenir au début du mois de novembre.
Voilà, le 6 novembre.
Le 6
novembre. Vendredi 6 novembre, voilà. Ce sera au Centre du patrimoine arménien, ça vient ça?
Voilà, tout
et
à fait.
Et je crois qu'on a une députée, une eurodéputée même qui sera présente.
Ah ben voilà, donc on a vraiment des invités qui sont proches de ces sujets et qui seront tout à fait, qui auront une réflexion tout à fait pertinente par rapport à l'avenir de cette région dans l'Union européenne.
De toute manière, on vous en reparlera davantage au mois d'octobre. Dans notre émission d'octobre, où on va aborder la question justement des Balkans. Plus précisément, on vous en parlera donc le mois prochain. Et enfin, pour finir l'année sur notre agenda, ce sera au mois de décembre un rendez-vous important autour de la jeunesse et de la mobilité des jeunes. On vous donne rendez-vous le jeudi 3 décembre au Parc des Expos, au Pavillon des Congrès à Valence, pour notre rendez-vous annuel de la mobilité des jeunes, avec une trentaine de partenaires qui seront présents pour renseigner les jeunes sur tous les dispositifs de mobilité qui existent, pour faire des stages, des études, du volontariat, des chantiers jeunesse, des séjours au pair, bref, partir à l'étranger. Malgré cette période de compliquée actuellement, mais en fait, il ne faut pas s'arrêter
les
là.
Perspectives restent,
les perspectives restent et on peut continuer à voyager. Et on sera d'ailleurs présent avec Radio BLV, qui, comme chaque année, est avec un plateau en direct, un plateau radio. Donc voilà, on vous donnera plus d'informations au fur et à mesure de la saison. Voilà pour l'agenda, Diana.
Parfait. Mais après ce programme intéressant, notre pause musicale, une chanson de
la Lituanie.
De la Lituanie, voilà. Cette fois-ci.
Un pays qu'on connaît peu, pas assez. Et on vous fait cette petite clin d'œil, notamment parce qu'on a une collègue à Lyon, Monica, qui vient de Lituanie. Donc c'est en honneur de Monica.
Laiko nėra, tai tik mūsų dalia skaičiuoti. Išmokome mes meluoti. Oras yra, bet kažkaip kažkada sustojam kvepuoti. Mėlė gyva, tik ne visada mes ją atsiduodam. Oh,
kiss. Aşkı bir cüz sabah mendiz.
Voilà, on vient d'entendre Monika Linkytė avec Po Dangun. Donc, c'était notre clin d'œil à la Lituanie.
En direct de Bruxelles.
Voilà, donc en direct de Bruxelles. Que peut-on nous dire, Ardiana, sur l'actualité européenne ?
Mais l'Union européenne en a aussi fait sa rentrée avec un premier semestre éprouvant par la crise sanitaire. Elle a mis fin à la pause estivale et voilà, elle doit se réunir ce mois de septembre pour travailler sur plusieurs chantiers. Qui se présentent, tels que le Brexit, le vaccin pour le coronavirus. On est encore aussi concernant le
plan de relance,
européen.
D'accord.
Normalement, le Parlement européen se réunit lundi 14 septembre. Il se réunit à Bruxelles cette fois-ci, étant donné que le coronavirus, la circulation du coronavirus a repris à Strasbourg. Donc, cette session plénière, elle va se tenir à Bruxelles.
Exceptionnellement,
tout à fait. C'est une session très importante. Et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, va justement prononcer un discours très important sur l'avenir de l'Union européenne.
Oui, d'ailleurs, à ce sujet, peut-être que Chloé, tu pourrais nous en dire un petit mot, ce discours, ce fameux rendez-vous annuel. En quoi consiste-t-il ? Qu'est-ce qui va se passer ?
Alors, l'objectif de discours sur l'état de l'Union, ce sera avant tout d'échanger sur l'avenir de l'Europe après cette période de crise, mais aussi de raviver la solidarité européenne et quelque part d'en faire un vecteur de relance.
D'accord, donc rendez-vous mercredi 16 septembre à 9h, en direct du Parlement européen, donc qui sera à Bruxelles exceptionnellement. C'est donc la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui va prononcer cet état des lieux, en fait, un petit peu post-crise. Donc ça va être assez intéressant à décrypter. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, on en parlera.
Bien, un sujet très important d'actualité de l'Union européenne, c'est justement le Brexit. On sait que le Royaume-Uni a formellement quitté l'Union européenne le 31 janvier, mais maintenant on est dans une période de transition et les deux parties, l'Union européenne et le Royaume-Uni, tentent justement de conclure un accord de libre-échange.
D'accord.
Par contre, il y a le pessimisme demeure puisque les accords butent sur plusieurs sujets.
D'accord.
D'abord, la pêche et les conditions d'une concurrence équitable. Et après, un revirement surprise de Londres, justement le mercredi 9 septembre, avec un projet de loi qui remet en question un petit peu le sujet de frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, qui était déjà défini dans le premier accord, mais que le Premier ministre
Boris Johnson,
il vient faire des petites des modifications.
Il le remet en question. Tout à fait.
Alors, l'Union européenne a réagi. Justement, Ursula von der Leyen s'est dit dans un tweet très préoccupée par les annonces du gouvernement britannique. Et justement, elle dit que de telles annonces ne font que saper la confiance entre les deux partenaires, le Royaume-Uni et l'Union européenne.
Et là, je crois que Boris Johnson, en fait, joue un petit peu aussi, disons, une manœuvre politique, parce que finalement, on voit dans les sondages que les Britanniques en ont marre de cette histoire du Brexit. Ils veulent en finir. Ils veulent simplement qu'on arrête d'en parler depuis 2016,
tout à fait.
23 juin 2016, le référendum qui a décidé cela, et ça fait Oui,
plus
voilà,
de 4 ans maintenant qu'on en
traîne,
parle.
C'est un sujet qui traîne et il faut absolument passer par un accord. Mais apparemment, il y en a, Boris Johnson a averti que, faute de compromis, d'ici au sommet européen du 15 octobre, il se satisferait de non-deal malgré les risques et les dégâts économiques en période de cette crise historique voilà, que connaît l'Angleterre et qui est provoquée par la crise sanitaire.
Ok, d'accord. Donc du coup, ça c'est un dossier qu'on va suivre aussi de près dans nos prochaines émissions qui évolue sans arrêt, jour par jour. Et on essaiera de vous tenir au courant, mais sinon, vous avez aussi notre site web, nos réseaux sociaux où on relaie l'information. Le deuxième sujet justement dont tu voulais nous parler, oui. Ardiana.
Voilà, c'est où on en est avec le vaccin européen contre le Covid. Donc l'Union européenne, de toute façon, dispose des moyens financiers. La Commission européenne, elle a mis pour la recherche d'un vaccin 10 millions d'euros en janvier et 2,7 milliards d'euros à la mi-juin. Et l'objectif est de financer les laboratoires privés les plus avancés et précommander des doses qui seront partagées entre les États membres.
D'accord, donc ça concerne également des laboratoires français, notamment.
Tout à fait, avec les laboratoires Sanofi pour une commande de 300 millions de doses de vaccins. Et elle doit faire l'objet d'essais cliniques en septembre et pourrait, si validité est vérifiée, être commercialisée au premier semestre 2021.
Bon, c'est assez, ça nous donne de l'espoir.
C'est encourageant, tout
voilà,
à fait.
C'est encourageant. Concernant notre troisième sujet à l'ordre du jour dont tu voulais nous parler, le plan de relance européen, donc du coup, comment on va pouvoir un petit peu, et tous ensemble, sortir de cette crise sanitaire, mais également économique. Et voilà, cet accord historique.
Voilà, historique, tout à fait, puisque les 27 États membres ont décidé de s'endetter en commun de 750 milliards d'euros destinés à surmonter la crise du Covid. Alors, le plan européen, il va financer les plans les programmes nationaux de relance de l'ensemble des États membres sous forme de subventions. Et la hauteur du financement dépend notamment de la population des États membres, de leur PIB, du taux de chômage avant la pandémie.
Donc il y a des subventions, mais il y a des prêts également, je crois.
Tout à fait. Il y a 390 milliards d'euros de subventions. Et les prêts, c'est à la hauteur de 360 milliards d'euros.
Waouh ! Bon, c'est vrai que ça nous parle
La France, de toute façon, va recevoir 40 milliards d'euros pour alimenter son plan de relance. D'ailleurs, notre Premier ministre Jean Castex, il a baptisé France Relance. Et il a déjà présenté le 3 septembre ce plan de relance qui sera doté de 100 milliards d'euros. Et il prévoit de financer 70 mesures reparties en trois piliers. Ce sera le cas des autres pays européens aussi. Transition écologique, compétitivité, innovation, cohésion sociale et territoriale.
D'accord. Bon, donc du coup, c'est un plan très ambitieux. Comme tu l'as dit, les 27 ont décidé de s'associer pour emprunter ensemble cet argent qui leur permettra de relancer cette économie européenne.
Fait.
Et chacun, un petit peu, chaque État recevra selon son besoin, selon comment il a été touché par la crise.
Par la pandémie, voilà, c'est ça. Le taux de chômage, il
recevra
PIB par habitant. C'est en fonction de cette situation, de ces paramètres-là, que l'aide sera fixée.
Mais comment l'Europe en entier, on va rembourser cela ? Sur quelle base, en fait, on va se servir pour financer ce plan ?
Mais justement, l'Union européenne compte sur l'instauration de nouvelles ressources propres. C'est-à-dire, voilà, ce sera une taxe sur le plastique qui sera appliquée déjà dès 2021. Et après, une taxe carbone aux frontières, une taxe sur le numérique et éventuellement étendue à l'aviation et au transport maritime, ainsi qu'une taxe sur les transactions financières.
Cette taxe sur le numérique, on en a beaucoup parlé, notamment avec les questions concernant Apple, Google, Facebook et le fait qu'ils sont basés sur notre territoire en Europe mais ne payent pas d'impôts chez nous et donc du coup ne contribuent pas comme ça aussi à l'économie européenne. Et donc,
cette taxe financière, voilà, irait dans le sens où ces géants du numérique, ils donneraient aussi leur contribution pour le financement justement pour rembourser cette dette commune.
D'accord. Et là, est-ce que on pense que ce sera facile ou pas d'obtenir cet accord entre les États membres ? De toute façon, c'est toujours la condition de départ, c'est le consensus entre les États membres. Et on ne sait pas de quelle façon ça va se dérouler, si les États membres, justement, tomberont d'accord tout de suite ou bien ça va prendre un petit peu plus de temps. On verra dans l'avenir et on fera plus de commentaires là-dessus.
Très bien, merci Ardiana. Eh bien voilà, on arrive à la fin de notre émission. C'était un plaisir encore une fois de te retrouver. Merci Chloé pour ton intervention.
Merci Anna.
Merci Anna.
Et puis on vous dit au mois prochain. Voilà, au mois d'octobre. Au revoir.
Au revoir.
Bonne journée.
Au revoir. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
Et puis l'Europe, c'est aussi l'espoir de progrès.
L'Europe du côté de chez nous.
Une coproduction, Radio BLV, Maison de l'Europe, Drôme-Ardèche.